Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Paris est officiellement en état d'alerte maximale et les restaurants restent ouverts sous conditions, mais les bars vont fermer. Pendant ce temps, le protocole sanitaire est assoupli à Marseille. Nous ferons le point dès le début de ce journal. Nous irons aussi à Washington où Donald Trump est brièvement sorti de l'hôpital hier pour saluer ses supporters. Le président américain pourrait rejoindre la Maison-Blanche dans la journée selon ses médecins. Il est, je vous le rappelle, positif au nouveau coronavirus. Et puis les combats sont de plus en plus violents dans le Haut-Karabakh. Les civils sont pris entre deux feux. Ils fuient vers l'Arménie dans des conditions très difficiles. C'est ce que nous dira une représentante de la Croix-Rouge. La décision est donc tombée hier soir à 21h30. Paris passe en zone d'alerte maximale, tout comme la petite couronne, c'est-à-dire les départements voisins Hauts-de-Seine, Val-de-Marne et Seine-Saint-Denis. Les bars seront fermés pour un minimum de 15 jours à partir de demain. Pour le moment, les restaurants sont épargnés et tentent de proposer au gouvernement des mesures renforcées pour éviter encore la fermeture. Les professionnels de la capitale, Yael Goz, ont été à moitié entendus par les élus.
Quelques minutes avant que ne tombe le couperet, Anne Hidalgo tweet avec un cœur vert ses remerciements aux artistes qui ont participé à la nuit blanche maintenue malgré le contexte sanitaire. Mais c'est bien le rouge écarlate qui devient la couleur de la capitale. La maire de Paris, prévenue dans la soirée par un coup de fil de Jean Castex, personne dans son entourage n'a vraiment été surpris. La potion est même un peu moins amère que prévu puisque les fermetures d'établissements ne s'appliqueront qu'aux bars pour 15 jours avant réexamen de la situation. Des mesures à but préventif, insiste Matignon, impopulaire peut-être, mais j'assume de me faire mal voir, nous a confié Jean Castex, conscient qu'il faut veiller à l'acceptabilité des décisions. Quand ça vient d'en bas et du corps social lui-même, ça change tout, nous a dit le Premier ministre, et de citer l'exemple des restaurateurs qui ont eux-mêmes élaboré avec l'État un plan B pour ne pas fermer, cette fameuse concertation devenue la boussole du gouvernement dans sa gestion de crise. Quant au psychodrame Matignon-Marseille, il devrait s'apaiser, car là-bas aussi les restaurants vont rouvrir, à condition de respecter le nouveau protocole plus contraignant.
Un protocole qui consiste notamment à laisser 1,50 m minimum entre les tables au restaurant, à demander aux clients d'inscrire leurs coordonnées sur un cahier pour un meilleur traçage des cas contacts et puis à fermer les restaurants à 22h tous les soirs. Explication ce matin et inquiétude de Jean Terlon, restaurateur à Longjumeau au sud de Paris et vice-président de l'UMIL, syndicat des hôteliers et restaurateurs.
On va nous demander de tracer les clients. Ça va falloir que les gens s'habituent à réserver de plus en plus au restaurant et pas à venir à l'improviste. S'ils viennent à l'improviste, il va falloir prendre leurs coordonnées. Si on réduit le temps à 22h, donc on va réduire le temps à table, rester 2 heures au restaurant, ça va plus être possible, quoi. Il va falloir rester une heure et demie maximum. On va réduire le temps à table. Il faut que les consommateurs prennent conscience que s'ils veulent continuer à aller au restaurant, il va falloir aussi qu'ils soient aussi un peu raisonnables. On peut pas aujourd'hui faire comme avant, ni les restaurateurs, ni les clients. En plus, on ne sait pas combien de temps cette mesure va durer. Et ensuite, on va les distancier un peu plus. On va passer de 1 mètre à 1,50 m, ce qui va évidemment réduire la capacité de faire un chiffre d'affaires correct. Moins de tables, moins de personnel en salle, moins de personnel en cuisine et ainsi de suite. Donc économiquement, ça va évidemment poser un gros problème en termes d'emploi et en termes de chiffre d'affaires et de viabilité du restaurant.
Des propos recueillis par Marie-Jeanne Delepol de France Bleu Paris pour France Culture. J'ajoute que dans les universités, les amphithéâtres ne pourront être remplis qu'à moitié dans toutes les zones d'alerte maximale et renforcée. 72 heures après la montée brutale des eaux dans les Alpes-Maritimes, comment partir de Saint-Martin-Vésubie ? Le village de l'arrière-pays niçois est toujours coupé du monde ce matin. Près de 250 habitants ont été évacués ces dernières heures par hélicoptère pour le moment, mais pour le maire de Saint-Martin, Yvan Mottet, ce n'est pas assez, il témoigne.
On est complètement isolé, on n'a pas d'électricité, il y a beaucoup de gens à sécuriser, à protéger. On avait 38 maisons qui ont été emportées par la rivière et je peux dire qu'il y en a à peu près autant aujourd'hui qui sont à détruire, c'est-à-dire qu'elles sont au bord de falaises. Qui on évacue en premier, c'est les personnes fragiles, les personnes âgées, mais également les personnes qui ont des problèmes de santé, parce qu'il n'y a plus beaucoup de médicaments ici, donc il vaut mieux les évacuer. On est en train de réfléchir également à évacuer l'hôpital pour être tranquille, parce que si jamais le groupe électrogène tombe en panne, ceux qui sont sous oxygène, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Donc il est important de pouvoir les évacuer au plus vite. Le problème, c'est qu'on est embêté parce qu'il y a les histoires des hélicoptères. Ils sont également pris dans la vallée de la Roya, ils sont pris dans la Tinée. Donc on est obligé de faire avec le peu de moyens qu'on nous donne.
Un des propos recueillis par Thibault Lefebvre sur place. La Nouvelle-Calédonie reste en France, mais jusqu'à quand? Le non à l'indépendance l'a emporté hier lors d'un second référendum, mais les partisans du oui progressent avec 3,5 points de plus qu'en 2018. Un troisième et dernier vote pourrait être organisé d'ici 2 ans. Nous reviendrons sur le statut de la Nouvelle-Calédonie et les enjeux dans ce territoire avec le Journal des idées juste après cette édition, suivi des enjeux internationaux avec Julie Gacon et son invité à 6h45. Donald Trump passe sa troisième nuit à l'hôpital après avoir été diagnostiqué positif au Covid-19. Ses médecins assuraient hier soir que l'état de santé du président américain s'améliore. Ils envisagent même un retour à la Maison-Blanche dès aujourd'hui. En attendant, hier soir, on a assisté à une scène étonnante. Bien que placé en quatorzaine et malade, Donald Trump a tenu à sortir brièvement de l'hôpital pour aller saluer ses supporters. Grégory Phillips nous raconte.
Un peu après 17h30, un convoi de plusieurs grosses voitures noires arrive lentement devant les grilles du Walter Reed Hospital. À l'intérieur, Donald Trump, masqué, qui, fenêtre fermée, salue de la main, la petite foule de supporters qui, avec des drapeaux Trump 2020, campe quasiment ici depuis vendredi soir. Le convoi progresse lentement, puis regagne l'enceinte de l'hôpital. La scène ne dure que quelques secondes, mais certains militants sont à la limite de la transe. Celui-ci hurle. Que Dieu bénisse notre président. Je serai prêt à mourir pour lui. Quelques minutes plus tôt, Donald Trump avait, dans une courte vidéo publiée sur son compte Twitter, annoncé cette sortie. Je pense, dit le président, qu'on va faire une petite surprise aux patriotes qui sont dehors. Et il ajoute, être ici à l'hôpital, c'est une expérience très intéressante. J'ai beaucoup appris sur le Covid. Là, c'est pas dans les livres qu'on apprend, c'est la réalité. Et j'ai compris des choses. À bord de la voiture présidentielle, Donald Trump était accompagné d'au moins 2 agents du Secret Service, également masqués. Mais dans la soirée, plusieurs médecins se sont étonnés de cette sortie risquant de mettre en péril la santé ou la vie de ses gardes du corps pour une opération photo, alors que le malade est censé rester à l'isolement.
Les forces séparatistes arméniennes ont bombardé ce week-end la deuxième ville d'Azerbaïdjan, tandis que l'armée azerbaïdjanaise, elle, poursuivait ses tirs d'artillerie lourde sur la capitale du Haut-Karabakh, Stepanakert. Aucun des deux camps ne veut une trêve, balayant les appels de la communauté internationale. Selon un dernier bilan partiel, les combats dans le Haut-Karabakh ont fait 247 victimes et des centaines d'exilés qui fuient vers l'ouest, vers l'Arménie. La situation est préoccupante, comme nous le raconte Zara Amatouni, la porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge à Erevan.
On reçoit des appels de civils terrifiés. Ils ne savent pas quoi faire, comment fuir et où exactement trouver un endroit sûr pour eux et leurs familles. Pour le moment, nous travaillons avec la Croix-Rouge arménienne pour trouver un refuge aux personnes qui en ont besoin et qui se signalent auprès de nous. La Croix-Rouge arménienne essaie de mobiliser des aides financières, locales, internationales pour venir en aide aux victimes. Elle aide à fournir une aide psychologique aux soldats blessés et à leurs familles durant leur convalescence dans les hôpitaux arméniens. Et puis la Croix-Rouge a aussi activé un service de traçage afin que les membres d'une même famille se retrouvent après avoir été séparés à la suite de combats. On estime que le bilan humanitaire de cette guerre sera très grave. Il est très très difficile de savoir combien de temps la situation restera aussi tendue.
Very, very serious. It's really difficult to predict for how long the situation will continue to be that tense.
Des propos recueillis pour France Culture par Thomas Giraudoux. L'histoire avait horrifié la Grande-Bretagne et au-delà de ses frontières. Il y a presque un an, les corps de 39 migrants vietnamiens avaient été découverts à bord d'un camion frigorifique dans une zone industrielle à l'est de Londres. Ces 31 hommes et 8 femmes, dont 2 adolescents de 15 ans, sont morts par asphyxie et hypothermie. 4 hommes sont jugés aujourd'hui au Royaume-Uni pour leur participation dans cette atroce affaire au Tsofi.
Ceux qui ont plaidé coupables ne seront pas jugés aujourd'hui. Seuls les 4 hommes qui nient les charges siégeront sur le banc des accusés pour homicide involontaire et aide à l'immigration illégale. À commencer par Eamon Harrison, 23 ans, pour avoir conduit le camion transportant les 39 victimes jusqu'à Zeebruges en Belgique. À l'instar de l'autre chauffeur, Mo Robinson, qui a pris le volant à Purfleet en Angleterre, il est nord-irlandais, mais contrairement à son compatriote, Harrison rejette les accusations. Extradé d'Irlande, il est actuellement actuellement en détention provisoire à la prison de haute sécurité de Belmarsh dans le sud-est de Londres, comme George Nika, 43 ans, arrêté à Francfort en début d'année en vertu d'un mandat d'arrêt européen, et deux autres hommes soupçonnés d'avoir joué un rôle dans ce trafic d'ampleur internationale. L'enquête menée conjointement par quatre pays a donné lieu à des dizaines d'arrestations et d'inculpations au Royaume-Uni, mais aussi en France et en Belgique. Sept personnes ont déjà été condamnées au Vietnam il y a un peu plus de deux semaines.
Aout Soufi, notre correspondante à Londres. Ce lundi sera encore bien pluvieux en France métropolitaine. Le temps ne sera sec finalement que sur le sud-est ce matin. De quoi souffler pour les rescapés de la tempête Alex. Temps plus lumineux aussi sur toute la moitié ouest, mais dès la mi-journée, cet après-midi, pas avant. Comptez ce matin 10 degrés à Strasbourg et Lyon, 12 à Paris, 14 degrés à Nice.